Donc les groupes, on va revenir dessus, on devait le faire hier soir, mais bon, on n'a pas pu. Je vais vous rappeler les groupes de la Ligue des Champions, donc voilà les groupes qui ont été tirés. Dans le groupe A, c'est le groupe des Girondins de Bordeaux qui contient aussi le Bayern, la Juve et le Maccabi Haïfa, dédicace à Dan. Le groupe B contient Manchester, le CSKA, Besiktas et Wolfsburg. Le groupe C, c'est le groupe de Marseille avec le Milan AC, le Real Madrid et le FC Zurich. Zurich. On m'a bien précisé que c'était Zurich et non pas Zurich. Voilà, pour info. Le groupe D, Chelsea, Porto, Atlético, Apoel, Tel Aviv. Le groupe E, le groupe de Lyon, qui contient également Liverpool, la Fiorentina et l'exceptionnelle équipe de Debrecen. Le groupe F contient Barcelone, l'Inter, le Dynamo de Kiev et le Rubin Kazan. Voilà. Et dans le groupe G, l'avant-dernier, enfin les deux derniers, comme si ça avait été fait exprès, les deux groupes moins relevés, faut le dire. Alors le groupe G qui contient Séville, le Glasgow Rangers, le VfB Stuttgart et l'Unirea Urzicheni. Le groupe H, c'était dur à dire, oui. Le groupe H contient Arsenal, qui a décidément beaucoup de chance sur les tirages, et qui contient également Alkmaar, l'AZ Alkmaar, étrangement dans le chapeau 2, l'Olympiakos et le Standard de Liège. Voilà. Donc Zurich, ce n'est pas un prénom arabe, Valentin. Voilà. Donc donc on peut commencer. Salut à tous. Donc ce soir, il y a beaucoup de monde là pour m'aider à la tâche, pour parler de ces groupes, ce tirage qui s'est déroulé hier soir. Il y a Didi.
Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de reprendre la radio.
Moi aussi. Il y a aussi Sonny Gall.
Bonsoir.
C'est bien Sonny Gall ou Sonny Gall?
Oh, Sonny, tu peux dire.
D'accord, Sonny. Sonny. Il y a aussi Habib.
Bonsoir à toi.
Entre deux bouchées de sandwich.
Et c'est ta mère le sandwich, ouais.
Et Valentin. Voilà.
Salut.
Salut Valentin.
Salut.
Pour revenu de Suisse. Donc voilà, donc à série, on peut parler un peu. On va parler des groupes tout de suite. Donc les groupes, on va commencer par le groupe des Girondins de Bordeaux. Hein, les Girondins de Bordeaux qui sont tombés dans le groupe A. Dans le groupe A des Girondins de Bordeaux qui contient également le Bayern de Munich, la Juventus de Turin et le Maccabi Haïfa. Alors Bordeaux pour le premier match jouera à Turin donc le mardi, ça sera un mardi 15 septembre, et donc dans l'autre rencontre le Maccabi Haïfa recevra le Bayern de Munich. Donc voilà, on va parler un peu de ce groupe, ce tirage de Bordeaux. Donc Bordeaux figuré dans le chapeau 3, le Bayern de Munich dans le chapeau 1 et la Juventus dans le chapeau 2. Votre avis sur ce groupe, sur ce tirage que donc, des Girondins de Bordeaux disent.
Bah, je pense que ça va être compliqué pour Bordeaux. Le Bayern passe un très très mauvais moment en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez parlé dans des émissions précédentes, mais le Bayern fait quand même le pire départ depuis 43 ans. Et ils sont vraiment pas au top et les recrues sont vraiment pas top chez le Bayern. Et donc il y a beaucoup de soucis et ça va être difficile pour Bordeaux parce que le Bayern va se reprendre, ça c'est sûr et certain. Pas seulement parce que le Bayern vient de recruter Arjen Robben, comme vous le savez sans doute. Je me doute que Marvolo n'est pas fan de Arjen Robben, mais je pense que ça va être difficile quand même pour Bordeaux, surtout d'aller jouer à Munich. Après la Juve, je peux pas trop juger, donc on va demander peut-être à Marvolo concernant la Juve et un des adversaires les plus coriaces ou l'adversaire le plus coriace pour moi, ça sera Maccabi Haïfa pour Bordeaux. Pas parce que ce sont des juifs, non, je ne dirais jamais ça.
D'ailleurs, on attend toujours Dan pour venir nous en parler. Hein.
Mais je pense que ça va être très très compliqué. Ça va être une équipe qui va se donner à fond dans cette compétition. Comme les petites équipes à chaque fois qui sont en Ligue des Champions, ils rendent vraiment la vie difficile aux autres clubs. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je verrais plutôt Bordeaux se qualifier pour l'UEFA à l'issue des matchs de poule.
D'accord. Ouais, bon, je vais commencer par faire une blague très à la Dieudonné. Non, t'inquiète pas, le Maccabi va se faire gazer. non, mais plus sérieusement, oui, donc ça c'était cadeau pour Dan, hein, qui fuit toujours ses responsabilités. je vais déjà remettre les points sur les i concernant Robben. J'ai jamais dit que j'aimais pas ce joueur-là, c'est pas vrai. Je dis juste que c'est pas un excellent joueur, c'est pas encore une star, c'est pas une valeur sûre. C'est un bon joueur et pas un très bon joueur. C'est une super recrue pour le Bayern. Quand tu passes en gros de Robben à Schweinsteiger, je pense que tu progresses énormément, mais énormément. Donc bon, non, je pense que c'est justement un joueur qui va faire du mal, qui va faire beaucoup de mal à ses aux adversaires du Bayern cette saison, parce qu'en plus il arrive avec un énorme sentiment de revanche pour les hispanophones. Je vous recommande de voir la page, la une de Marca, l'édition internet. Il y a une petite interview qui est très marrante. De toute façon, si vous parlez pas espagnol, c'est pas grave, parce que Robben, il sait pas parler espagnol non plus. Et pour la Juve, c'est pour le coup, c'est sûrement une des plus équipes les plus coriaces, et pas le Maccabi avec Chelsea, parce que pour le milieu de terrain, ils ont une puissance physique assez hors norme. Donc est-ce que Bordeaux a ses chances? Peut-être, mais je pense que la première place est d'ores et déjà assurée pour la Juve. Je vois difficilement la Juve se planter. Donc après, ça risque de se jouer entre le Bayern et Bordeaux. Et là, il faudra vraiment y aller à fond, quoi. Il va falloir que les clubs français, donc là Bordeaux et puis Marseille aussi pareil, jouent un peu contre nature. Ils devront être ultra réalistes en Ligue des Champions, ce qui leur arrive pas souvent.
Donc j'avais juste une petite précision en fait que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Je sais pas si vous êtes au courant aussi, mais apparemment Louis van Gaal, le nouvel entraîneur du Bayern, aurait convaincu Franck Ribéry de jouer en 10 et non en ailier attaquant comme il le faisait avant. Donc ça serait Ribéry qui jouerait en 10 au Bayern.
Avec, en gros, ce serait donc Ribéry en 10, Robben à droite et Prandić à gauche, c'est ça?
Voilà, a priori.
Ça a l'air franchement très costaud. Hein.
Surtout après, Valentin. Ouais, Prandić, après, c'est une des grosses déceptions des recrues du Bayern, avec Edson Braithwaite, qui sont vraiment pas au niveau de la Bundesliga pour l'instant. Je disais ça parce que Benvolo disait que c'était très costaud. Pour moi, Prandić, il a encore beaucoup de boulot. Quoi.
De toute façon, au pire, tu mets malheureusement Schweinsteiger ou bien Olic, ça passe encore sur un côté, c'est très faisable aussi. Maintenant, c'est clair que la Juve, à mon avis, il n'y a pas trop de problème pour les voir passer. On sait que la Juve, cette année, ça veut tout gagner, que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat d'Italie. Comment on va pouvoir éviter de les sortir dans ce groupe? Ça faudra qu'on m'explique s'il y a un moyen qui existe. Je pense pas vraiment. Maintenant, c'est surtout donc Bordeaux-Bayern, évidemment, mais ça va sans doute se jouer en Israël, la qualification chez deux, la meilleure résistance à jouer là-bas entre le Bayern et Bordeaux. Ça va peut-être permettre à l'équipe qui aura fait le meilleur résultat de se qualifier. Bordeaux, on l'a vu l'année passée, ils savent s'adapter. On l'a vu l'année passée à Cluj. Ça peut être très 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 intéressant pour eux, ce groupe aussi. C'est un peu un moyen de se frotter à deux trois grosses écuries européennes et qui sont peut-être pas forcément extrêmement au-dessus d'eux, et Bordeaux peut vraiment, à mon avis, s'en sortir si le Bayern évidemment ne remonte pas la pente très très rapidement.
D'accord, merci.
En fait, c'est pas une rectification, mais j'ai toujours du mal, en fait, entendre un mec dire c'est une mauvaise recrue alors qu'il a joué 3 matchs. Quoi. C'est peut-être attendre un petit peu, non?
Dis-y.
Oui, je pense que ça t'était adressé. Tu parles de qui en parlant de mauvaise recrue? Tu reviens sur Prandić?
Ouais. De toute façon, dans n'importe quel cas, après 3 matchs, on dit que c'est une mauvaise recrue.
Non, j'ai pas dit que c'était une mauvaise recrue, j'ai dit que...
Une déception.
Peut-être que j'ai dit ça comme ça, enfin, ce que je veux dire, c'est que, vu les premiers matchs et les matchs de test, dans le système Van Gaal, Prandić et Braithwaite sont vraiment les gens qui m'ont déçu, parce qu'on attendait plus de leur part. Après, c'est vrai, hein, ils ont joué dans le championnat néerlandais, qui est pour moi plus ou moins proche de la Bundesliga,
Donc je pensais qu'ils allaient s'adapter rapidement, et quelqu'un qui arrive au Bayern, en général, doit s'adapter très rapidement pour ne pas s'attirer des critiques assez virulentes souvent dans la presse. Et moi, je suis assez d'accord, quand tu vas au Bayern, on te laisse un peu moins de temps d'adaptation que dans les autres clubs, pas qu'un peu d'ailleurs. Et donc moi, je disais juste que jusqu'à maintenant, ils doivent encore beaucoup prouver, parce que jusqu'à maintenant, ils ont clairement pas le niveau pour jouer dans ce club.
D'accord.
D'accord, mais c'est juste... Bon, à la limite, tu vois encore Brafey, donc celui qui... C'est le latéral gauche de Twente, enfin, il joue à Twente, non?
Ouais.
Encore lui, bon, à la limite, c'est pas non plus un joueur reconnu. Je crois qu'il a, il a juste quelques sélections en équipe nationale. Mais à la limite, Pantic, il a déjà joué des euros, il a joué ça, il a montré quand même beaucoup plus de choses. Donc c'est plus
non, mais après...
vis-à-vis de lui. Pardon ?
Après, il faut voir que c'est Van Gaal qui voulait absolument ces joueurs. Et à partir de là, quand c'est l'entraîneur qui vient et qui demande des joueurs, au Bayern, il faut quand même que ça se montre efficace rapidement, si je peux dire comme ça. Sinon, comme j'ai dit, c'est peut-être un peu comme Lyon-Marseille en France. Dès qu'il y a un truc qui marche pas, tout le monde se concentre dessus. Et au final, tu attires beaucoup de critiques dans la presse. Après, comme je t'ai dit... je trouve ça normal aussi de leur laisser peut-être un temps d'adaptation, de ne pas les juger tout de suite.
Et Rob Zibbins, il y avait une petite question de Didier, je crois que tu voulais demander à Abid comment Diego s'était intégré à la Juventus, donc autre club de ce groupe.
Tu vas arrêter avec un peu avec ta Juventus, ce nom franco-francisé par les Français.
Calme-toi, comment... calme-toi.
Il est sur les nerfs, attends, je le sens.
Non, mais c'est la prononciation, c'est pas forcément le dada des Français, on va dire.
L'Inter Milan et la Juventus. Non, mais concernant Diego. Diego, il va vraiment avoir les clés, les clés de l'équipe, parce qu'en gros, la Juve va jouer en 4-3-1-2, donc ce serait en théorie Felipe Melo devant la défense, Marquisio à gauche, à droite Sissoko, Diego en 10, et devant en théorie. En théorie, Del Piero et Amaury. Pour l'instant, il a l'air de bien s'intégrer. Hein. Déjà, le premier but, c'est plutôt sur le seul but de la saison, vu que la Juve a gagné 1-0 contre le Chievo, c'est lui qui met la passe décisive, qui met le ballon sur la tête de Iaquinta. Donc, il a l'air pas trop mal. Il a frappé aussi sur le poteau. Donc, franchement, c'est pas, ça a l'air d'être une belle intégration. Mais là, c'est pareil. J'attends de voir... dans un sens comme dans l'autre, hein, que s'il réussit son premier match ou qu'il le foire complètement, j'attends juste un peu plus dans la durée, mais pour l'instant ça a l'air très positif finalement.
Et puis il y a un Youvroma qui arrive d'ici deux jours maintenant, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir avoir une première impression qui sera évidemment pas définitive, mais qui va déjà fixer un peu les bases, et c'est là-dessus qu'on va commencer à se référer dans les semaines voire mois à venir. Mais Diego, à mon avis, il y a pas trop de soucis à se faire, ça va s'adapter tranquillement, ça va bien jouer tranquillement, et je pense que ça va être surtout un maillon extrêmement fort de cette Juve nouvelle formule.
Bah, je t'avoue que moi, je suis loin d'être aussi emballé que toi, quoi. C'est toujours la même chose, c'est la jurisprudence Kezman. Ouais. Qui fait que ben justement j'attends de voir un peu ce que ça va donner, mais après pour la Ligue des Champions le point positif pour la Juve, c'est que ils ont un calendrier tellement chaud d'entrée de jeu qu'ils vont pas avoir le temps de flémarder, qu'ils vont être au taquet directement, parce que tu disais qu'ils vont jouer la Roma, mais ensuite ils se déplacent encore une fois à Rome pour jouer la Lazio, ensuite ils reçoivent Bordeaux, et ça va être un coup sur coup, ils vont jouer la Fiorentina, ils vont jouer le Genoa, le Bayern, Palermo, donc tu vois, ils vont être tellement dans le bain que je les vois mal se planter, quoi, parce que je pense que le fait de jouer très tôt les grosses équipes, ça va leur mettre une pression terrible, ils vont devoir être au niveau, et franchement, c'est pas bon signe pour Bordeaux, parce qu'ils vont les jouer dès le début. Je pense que pour Bordeaux, ça aurait été peut-être meilleur de jouer tout de suite... le Bayern, hein, parce que quand on voit leurs résultats, c'est pas terrible du tout. Alors que la Juve, même les matchs d'avant-saison, à part la grosse déculottée contre Villarreal, ils ont toujours été bons.
Après, c'est clair que jouer le Bayern tôt, ça aurait été un net avantage. Comme je disais tout à l'heure, ils sont pas en forme. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que Van Gaal a clairement dit qu'il serait pas au top tout de suite, même si beaucoup d'Allemands ont du mal avec ça, puisqu'on a l'habitude de voir le Bayern au top tout de suite. Et Van Gaal avait parlé de 2 ans pour mettre le Bayern au niveau de Barcelone d'aujourd'hui.
Voilà. D'accord. Bon, je pense qu'on a bien parlé de ce groupe. Hein. Quelques petits pronostics avant de passer à l'autre groupe. Dizzy, par exemple, où tu vois Bordeaux dans ce groupe ? Troisième derrière le Bayern et la Juve.
Bon, moi, je dirais le premier Juventus, deuxième le Bayern. Et bon, j'hésite entre le Bayern et Bordeaux. La tendance serait plutôt pour Bordeaux en Coupe UEFA. Et encore, je suis pas si sûr
en Europa League.
Parce que le UEFA serait il est toujours retardé, ouais. Moi, je dis Coupe UEFA, je suis un traditionnaliste. Non, bah, comme j'ai dit,
Maccabi. Si tu veux être vraiment traditionnaliste, 10 coupes des villes de foire fera mieux.
comme je disais, le Maccabi Haïfa sera un adversaire coriace, donc là encore, entre Bordeaux et Maccabi, ce sera peut-être serré.
D'accord, merci. Et toi, Sony, pour ne pas te tromper dans la prononciation.
Ouais, je dirais la Juve premier, Bayern ensuite. Ça dépend si Bordeaux se la joue frileux comme l'année dernière. Faut voir s'ils arrêtent à faire des blocs défensifs qui sont percés à l'extérieur en plus. Mais même ça va jouer avec le Maccabi qui va gratter des points chez lui. Puis ça va faire comme ça. Ça va être serré, je pense, entre Bayern, Bordeaux, puis Maccabi.
Ça a l'air très sûr quand même. Hein.
Bah ouais, parce qu'en fait j'en sais rien du tout.
Non, en fait c'est juste à lui fout la rage de voir Laurent Blanc laisser Cavenaghi sur le banc, quoi.
Aussi.
Faut le dire, tu suis un Cavenaghiste, donc forcément.
Oui, vas-y.
Bah moi c'est pareil, hein. Je pense honnêtement que la Juve va passer premier. Le Bayern, encore une fois, il y a le champion de France qui va mobiliser un peu toute l'opinion publique, qui vont penser qu'ils vont encore les sortir, mais je pense qu'à la Wallagen, ils vont encore passer le Bayern. Troisième Bordeaux, et puis la deuxième blague sur le Maccabi, et puis promis, je m'arrête. Tu dis qu'ils sont coriaces, non, ils croquent très bien sous la dent, t'inquiète.
Tu crois?
Ah oui. Donc, tu me fais pas le moindre doute, hein. Ah, ils vont se prendre des valises.
Et donc, vous voyez tous Bordeaux, enfin...
Non, pas moi.
Vous restez... Moi, tu veux faire ton...
Non, moi, je vois Bordeaux se qualifier, peut-être à l'arrache, mais je pense qu'ils vont bien passer. Il y a souvent des années où le Bayern s'éloigne complètement en Champions League, et pourquoi ce serait pas celle-là? Bordeaux, une année pour apprendre, une année pour réussir en Champions League, ça peut le faire aussi. Moi, franchement, je vois pas mal Bordeaux, là, se qualifier. L'année passée, ils sont arrivés en Champions League, leur équipe, elle était pas totalement fondé, il y avait un Gourcuff qui était déjà très bon, mais il y avait pas encore tout qui était parfait comme on a pu le voir en la fin de saison. Maintenant je les vois franchement bien pour cette saison à aborder, et pour moi ils passeront au détriment du Bayern, voire même du Maccabi. Mais je pense quand même que le Bayern va finir de troisième. De toute façon, ils ont pas trop le choix s'ils veulent pas se faire lyncher dès les jours et les semaines à suivre un peu partout en Allemagne.
D'accord, merci pour ce petit couplet anticonformiste. donc tu vois Bordeaux, c'est... pour faire clair pour les pièces de monnaie qui tombent.
Je vais même parler pour Valentin, chez nous tu entends rien parce que c'est des billets.
J'allais le dire.
Mais je te pardonne ce réflexe de pauvre. Hein.
Mais je l'avoue, c'était quand même 5 francs suisses.
Voilà, donc assez rigolé. On peut parler de l'autre club français. Oui, j'utilise l'autre. Je veux bien sûr parler de Lyon. Voilà, donc on parlera de Marseille après. Donc Lyon qui est tombé dans un groupe qui contient la Fiorentina, Liverpool Football Club et Debrecen. Donc Debrecen, je suppose que vous savez tous d'où vient ce club.
République Tchèque.
Ok, je dois être déjà largué.
Allez.
Oui, c'est hongrois.
Voilà, bravo, Habib.
Bah,
voilà.
On en avait parlé la veille du tirage. On parlait de cette équipe de merde qui s'était fait une volée par Manchester ou Arsenal. 3-0, 3-0. Donc, là, pareil, comme le Maccabi, il avait bien croqué sous la dent.
Donc voilà, donc Debrecen, Fiorentina, Lyon, Liverpool. Lyon qui était dans le chapeau 2 et la Fiorentina qui a été tirée dans le chapeau 3. Vos remarques par rapport à ce groupe Dizzy, qu'est-ce que t'en... Bah vas-y Valentin, honneur aux Suisses. Je sais ça veut rien dire, mais honneur aux Suisses quand même. Vas-y Valentin, qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Lâche-toi.
Fiorentina éliminé. C'est qui le quatrième déjà?
Debrecen.
Debrecen éliminé. Debrecen éliminé, Liverpool, Lyon qualifié. Parce que la Fiorentina c'est très très faible en ce moment, hein, c'est tout. Que, à mon avis, par rapport à l'an dernier, Lyon va pouvoir avoir beaucoup plus de facilité face à cette équipe qui est vraiment pas bonne en ce moment. Il y a eu un recrutement qui s'est résumé à Marquinhos et Zanetti, qui sont certes des bons joueurs de Serie A, qui étaient des joueurs très corrects de la Juve l'an dernier. Mais il leur manque ce leader offensif qu'on pourrait désigner comme étant Moutou, mais il aurait fallu peut-être une recrue pour dynamitiser un peu tout ça, et ça n'a pas été le cas, donc ça restera pour moi Fiorentina éliminé.
Mitiser,
ouais. Dynamitiser, c'était pas mal. Ouais, donc je vais réagir après mon petit Suisse. Moi, je suis plutôt de ton avis. Après, je dois avouer que je connais pas trop le niveau de la Fiorentina parce que je suis pas trop de la Serie A. Mais Debrecen, je vais faire confiance à Marvolo, puisque vous en doutez, je connais pas trop cette équipe non plus. Je vais lui faire confiance. Puisque ce sont des Verbrels, ils vont se faire éliminer. Et donc je vois plutôt Liverpool premier, Lyon deuxième. Et je dois dire que j'ai vu surtout le match aller de qualification contre Anderlecht. Et j'ai été satisfait pour la première fois depuis 2 ans, je pense. J'ai vu un bon match de Lyon qui m'a satisfait, et j'étais très content de voir un Lisandro Lopez en forme. Et pour moi, ça a beaucoup plus de valeur qu'un Benzema d'avoir un attaquant comme ça, dans la mesure où on a pu recruter d'autres joueurs à côté, et on se repose plus sur 2 joueurs qui étaient Juninho et surtout Benzema. Donc tout ça pour dire que si Puel enlève son 11-0-0 du cul, je pense que Lyon pourra faire quelque chose.
Moi, je vais d'abord revenir sur les propos de d'Elvesia qui m'ont un petit peu choqué. Alors, autant dire que Marchionni, c'est un joueur de bon joueur de Serie A, ok. Même si Marchionni, quand il est à fond physiquement, c'est une bête. Mais Cristiano Zanetti, tu peux pas dire ça. Cristiano Zanetti, ça a été le patron du milieu de terrain jusqu'à ce qu'il se blesse. C'est un putain de joueur, mais dans le vrai sens du terme. C'est pas juste le récupérateur à la con, quoi. Il est vraiment capable de faire plein de choses. Moi, je trouve que c'est une super recrue. Je suis vraiment, mais vraiment dégoûté de voir qu'on l'a vendu aussi peu cher, parce que c'est 2,5 millions seulement. Après, sur l'effectif, là, je l'ai devant moi, franchement. Est-ce que ce sera suffisant pour battre Lyon? J'en suis franchement pas sûr. Il y a de bons joueurs, hein, tu parlais de Moutou, mais aussi Vargas, Montolivo, Kuzmanovic.
Jovetic
aussi, c'est tous de bons petits joueurs, mais...
Il n'y a pas de joueur pour porter l'équipe.
Moutou, quand il ne doit pas 33 milliards et demi à l'opération des craqués de Varsovie, quoi, tu vois. Mais...
Moutou, c'est un match sur 3, sur 2 ou 3... À la Fiorentina, c'est pas le Moutou dont on attend vraiment qu'il soit un leader offensif. Hein, Après, juste pour réagir un peu sur Zanetti, non, il n'y a pas de problème sur ce qu'il a pu faire, mais je parle surtout ce qu'on a vu ces dernières années. Hein, ces deux dernières années où il a été énormément blessé, hein, je te l'accorde. Mais quand il a joué, il a jamais été vraiment étincelant. Maintenant, peut-être qu'il va pouvoir retrouver une seconde jeunesse du côté de la FIO, ça peut le faire aussi. Mais moi, c'est pas le bison. S'il était un supporter de la Fiorentina, c'était pas les recrues que j'aurais attendu. Bien que Zanetti, ça peut remplacer Melo dans la vie terrain. Mais Marchionni, c'est un bon joueur de Serie A, mais il manquait peut-être à cette place un autre joueur qui pouvait qui pouvait vraiment un peu aller être un feu follet sur le côté droit et un peu à l'instar, c'est pas Vargas, c'est pas trop mauvais sur le côté gauche, mais il faut un gars qui puisse un peu bouger les défenses et c'est pas vraiment le cas.
Ouais, mais tu oublies juste que si tu veux, c'est le même cas à Lyon, quoi. Hein. Bastos, c'est un bon petit joueur de Ligue 1 sans plus. Delgado, c'est un joueur de Ligue 1 et encore. Et c'est pareil pour Anderson, c'est pareil pour Pjanic. C'est fini un peu l'époque de Lyon qui arrivait avec ses 11 internationaux et 6 ou 7 internationaux. C'est pareil, tu vois, c'est un peu le même statut. Bon, alors après, ils ont Alessandro Lopez qui est bien supérieur au joueur de la Fiorentina, ça pour le coup.
C'est ça qui fait la différence pour moi. C'est ça qui fait la différence. Eux, ils vont Lyon à Alessandro Lopez en leader offensif, Fiorentina rien.
Ouais, mais la Fiorentina a une bien meilleure défense.
Marv.
Ouh là là, oui. Ça c'est pas vraiment sûr.
Je voulais faire
c'est pas très compliqué hein, d'avoir une meilleure défense que Lyon. Hein.
Que Lyon, ok, mais ok pour Lyon, ouais, mais une bonne défense. J'ai pas envie de dire ça.
Non, bonne défense, non, j'ai juste meilleur.
Ah ouais, meilleur, mais.
C'est pas compliqué.
Quand tu compares Lisandro Lopez face à la défense de la Fio et peut-être même Moutou par rapport à la défense de Lyon, à mon avis, on arrive sur un pied d'égalité.
C'est ce que je voulais dire, moi, tout simplement.
Okay.
C'est que par rapport au statut, ça va être très très serré. Il ne faut pas penser que Lyon n'est plus la grosse équipe qu'elle était il y a quelques années. La Fiorentina, pour moi, c'est une équipe qui me déçoit parce que l'an passé, elle aurait dû vraiment exploser. Au lieu de ça, ils se qualifient vraiment à la limite. Bon, j'attends plus d'eux. Après, il faut voir. Là, je vais solliciter Sony. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, toi, des choses sur. Sur Salvio, moi j'ai entendu qu'il devait signer à la Fiorentina, on en parle depuis 3 mois quasiment, puis au final toujours rien, donc je sais pas si toi t'es au courant, si t'as des nouvelles ou pas.
Non, pour le moment il est toujours à l'Anus, pour voir maintenant, maintenant il y a des transferts, ça annonce, il n'y a rien, d'autres...
Salvio lui c'est le milieu ou attaque en ce moment, non ?
Ouais c'est sûr, c'est un des nombreux Messi-like, c'est un des nombreux Messi-like qu'on a en Argentine. C'est des petits rapides.
Ouais, j'en ai entendu parler un peu.
Et en plus, non, voilà. Il a été sélectionné en équipe d'Argentine, ça coûte pas monter encore.
Panama, ouais. Mais bon, voilà.
Je crois qu'il a été appelé aussi pour la double confrontation contre le Brésil et le Paraguay.
Non, mais voilà, c'est pas non plus un super, super joueur, mais par contre, la grosse perte, c'est. Je me demande toujours comment la Fiorentina a pu laisser partir Pazzini. Pour moi, ça c'est franchement con. Ouais.
Mais en même temps, c'est un peu.
Il était pas bon, je te l'avoue. Mais tu sentais qu'il avait un gros potentiel.
Ah, ça c'est sûr, mais c'est un peu le même profil que Gilardino, et forcément, quand t'as Gilardino et Pazzini, t'as envie de préférer Gilardino. Et puis maintenant.
Pas pour moi, malheureusement.
Non,
je sais qu'on va tous me taper dessus.
Voilà, non, mais moi je suis 100% d'accord avec toi. Je vois Pazzini à l'ensemble, je me régale quand je vois Cassano et Pazzini ensemble. Mais quand tu vois un joueur arriver du Milan, qui est Gilardino, forcément les directions de club italien, ils ont un peu l'envie de dire c'est Milan, donc forcément ça passe devant un Pazzini qui avait pas encore vraiment prouvé vraiment en Serie A, qui avait déjà mis quelques buts mais qui avait pas encore vraiment explosé, et forcément même si l'entraîneur pense le contraire. C'est dur à enlever un Gilardino par rapport à un Pazzini à ce moment-là.
Didi, vas-y.
Je ne sais pas pourquoi on me donne la parole tout de suite.
Non, t'as pas.
Parce que t'as fait le caca l'herbe en off, moi je dis ça comme ça.
Tu voulais te suicider.
Tout à l'heure je voulais. Non, mais là maintenant c'est hors sujet comme ça. Mais je voulais parler de Delgado, lui faire une petite dédicace toute particulière parce que. Je sais pas si vous avez vu, je crois que c'était le match aller à Anderlecht, contre Anderlecht à Lyon. Il a raté, en l'espace de 10 minutes, 3 ou 4 occasions nettes, très 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 nettes, où il était à 2 mètres du but, à 5 mètres du but, il l'a mis sur la transversale, au-dessus, sur le gardien, il a tout fait. Et je trouvais ça tellement touchant que je voulais lui faire une petite dédicace.
D'accord.
Mon esprit d'amitié pour ça.
Sinon, juste revenir un peu sur la Fiorentina. J'ai regardé le match retour contre le Sporting. Et la Fiorentina se qualifie quand même extrêmement chanceusement. Le Sporting qui a dominé l'aller et le retour. Mais alors complètement, qui s'est... J'aime pas trop dire ça, mais qui s'est un peu fait voler par l'arbitre à l'aller. Et là, au retour, il domine complètement. Bon, c'était attendu, puisque à l'aller, ils avaient fait 2-2 à Lisbonne. Et forcément, on s'attendait à un repli, à une FIO qui se replie complètement et qui laisse venir le Sporting, qui a d'ailleurs marqué, qui a ouvert le score plutôt rapidement. Mais franchement, ils ont manqué pas mal d'occasions, le Sporting, notamment le Yannick Diallo, là, c'est en attaque qui est un peu comment on peut dire ça? Il est pas vraiment grand et baraque, mais il a le profil du Moussa Sow. Ça veut dire il va tout droit.
Moussa Sow.
Sans commentaire.
Et il a les picards, évidemment.
Bah, tu as dit Moussa Sow.
Alors, c'est pas ça.
Non, et puis là où je trouve que Lyon a encore un beau tirage, c'est que on parle de la Fiorentina, mais même cette année, c'est sûrement le plus faible Liverpool depuis pas mal de temps.
Ah ouais, ça c'est sûr.
Sans Xabi Alonso, c'est plus du tout la même équipe. À Koulani, on a beau me dire ce qu'on veut, alors on peut pleurer, chialer et tous les adjectifs que vous voulez, tous les synonymes. C'est pas du tout, mais pas du tout la même trempe de joueurs que Xabi Alonso. Et c'est pas parce qu'en Italie on adore se tripoter sur les joueurs italiens que c'est tous des bêtes. Je suis désolé, c'est un mec qui joue 20 matchs par saison et puis il peut pas encore plus.
Et encore.
Donc voilà.
Il marque une ou deux belles frappes par saison parce qu'il a une excellente frappe. Mais dans le jeu, c'est pas forcément le meilleur qu'on puisse trouver à ce poste.
Ouais, je pense très très honnêtement que c'est pas. Il a pas du tout le comment on va appeler ça. Il a pas du tout le niveau pour remplacer Xabi Alonso.
Et puis juste un peu pour dire, tu disais qu'il y avait un mauvais Liverpool, il y a une mauvaise Fiorentina. Mais aussi, peut-être le plus mauvais Lyon depuis pas mal de temps aussi.
Je trouve qu'ils sont mieux que l'an passé, Lyon.
Ouais, que l'an passé, ça peut jouer, mais alors je pense pas que les années. Ça, à mon avis, c'est Lisandro qui fait la différence quand même. Bon, bah, si, oui, vas-y, Dizzy.
On va laisser on le voit. C'est Dizzy, tout chaud. Enfin, non, mais au moment où tu as dit le plus mauvais Lyon, j'ai sursauté. Parce que pour moi le point faible de Lyon c'est Claude Puel, c'est lui qui peut faire un croche-patte à l'Olympique Lyonnais en adoptant le mauvais système de jeu et en demandant à ses joueurs d'adopter la mauvaise mentalité sur les terrains. Ce que je veux dire par là c'est ce fameux jeu défensif que nous adorons tous, mais je crois que en voyant les matchs contre Anderlecht, certes c'était une équipe faible en face, qui était, je sais pas ce que vaut Anderlecht exactement, mais c'était une équipe faible sur les deux confrontations. Mais quand même, on a vu de la rapidité, on a vu que les recrues c'était plus ou moins bien intégré et qu'il y a du renouveau, c'est-à-dire que il y a Batefimi Gomis et Alessandro Lopez qui semblent très très bien fonctionner tous les deux. Enfin, très très bien, j'exagère plus. Ils ont bien fonctionné tous les deux sur le terrain et Stos Johnny sur les coups arrêtés et si on fait jouer au football plus ou moins offensif, je crois que certaines défenses peuvent être en difficulté sur le jeu offensif de Lyon, mais après il faut voir aussi que au niveau attaquant c'est pas vraiment ça, parce que à Lyon on a Gomis, il y a Lisandro Lopez, derrière il y a Yannis Taffer et après il y a plus rien, c'est-à-dire qu'il y a trois attaquants dont deux qui ont plus ou moins confirmé leur niveau, et ça va être un gros problème, pas seulement pour la saison mais aussi pour la Ligue des Champions je pense. Mais tout ça pour dire, je pense que Lyon est mieux que l'année dernière et que le renouveau qu'on annonçait un petit peu déjà l'année dernière il s'est pas du tout passé, et moi je sens que cette année peut-être on pourra commencer à construire quelque chose à Lyon.
D'accord.
Merci. Ouais, mais enfin, si toutes tes conclusions tu les tires à partir du match contre Anderlecht, bon, enfin, moi j'y vais avec Romain.
Non,
je pas tire, longtemps, on leur met la misère aussi à Youaz et Van Damme.
Je ne
pas remets au point.
C'est un espoir.
Non, mais effectivement, mais quand tu joues contre une équipe, ah, parce que là, franchement, Anderlecht, je suis même pas sûr qu'elle se maintient en D1. Hein. Franchement, non, non, non. Quand tu vois le match, je suis même pas sûr que ça se maintient en L1. Alors, il y a le meilleur joueur offensif, mais ça, c'est ce que je l'ai dit. En Coupe d'Europe, les clubs français, à part quand ils jouent contre les pays, les gros pays, plus le Portugal et voire l'Ukraine ces dernières années, ils passent quasiment tout le temps pour une raison très simple. Ils sont mieux organisés, tu vois. Ils ont plus une configuration pour la Coupe d'Europe parce qu'au final, on parle beaucoup de Barcelone, mais en Ligue des Champions, qui joue vraiment comme Barcelone? Qui joue l'attaque à outrance? Arsenal, un petit peu. Villarreal, quand elle va en Ligue des Champions. Et puis le reste, finalement, ça défend plus. Ça, c'est plus dans la contre-attaque, dans la réaction, que dans vraiment la création de jeu. Donc.
Bon, on avait vu Chelsea l'an passé, hein, notamment.
Oh, Chelsea, non, mais... l'an passé, c'était la négation du football, arrête. Ah. Contre le Barça, c'était horrible, de chez horrible. Hein.
Oh là là.
Non mais voilà, ils ont le droit effectivement, c'est une adaptation tactique parce que quand tu joues contre le Barça, vaut mieux si tu veux serrer les fesses que les ouvrir. Hein. Mais ouais, et puis ça m'a fait plaisir d'ailleurs de voir le Maçon se faire sanctionner et de prendre une sanction au Camp Nou. Mais bon, moi je pense juste qu'il faut pas trop s'emballer tout de suite parce que pour l'instant ils ont joué que des équipes de merde en Ligue 1.
C'est ce que j'ai dit.
Faut juste attendre un petit peu plus si tu veux. Alors après que tu as un espoir évidemment parce que on voit Lisandro par exemple, il est déjà très très en jambes, il est à l'aise. Bastos, je l'aime beaucoup. Pjanic, il semble avoir franchi un palier. Après peut-être c'est juste une illusion. Donc évidemment il y a des motifs de satisfaction, mais le problème c'est que tant que tu joues pas contre une grosse équipe, tu peux pas savoir ce que ça vaut. Quoi.
On est d'accord.
Bah alors je te fais un bisou.
C'est ce que j'ai dit, pour le niveau d'Anderlecht, je l'ai bien précisé. J'ai bien précisé que c'était très faible sur les deux confrontations. Donc à partir de là, je ne pense pas que j'ai dit de la merde. Mais on verra effectivement ce que ça donne.
Voilà. 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 Donc, voilà. Merde, on s'en fout. On passe à l'autre groupe qui concerne les équipes françaises. Je veux bien sûr parler du groupe, entre parenthèses, de la mort, qui concerne Marseille. Donc Marseille qui a tiré dans sa poule le Milan AC, le Real de Madrid et le FC Zurich. Et non pas Zurich. Je suppose que vous êtes tous chauds là, notamment Habib, donc vas-y, lâche-toi. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Alors je vais demander à mes auditeurs, m'imaginer en train de danser comme Chandler dans Friends, j'irai au Bernabeu. Sinon, malheureusement, c'est le seul moment de joie dans cette question. Sinon, je pense qu'on va sortir encore une fois. Hein. À Marseille, on est très bon pour finir troisième. Je pense que cette année, ça va pas y déroger. Faudra, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Bordeaux, faudra être mais ultra réaliste. Chose qu'on ne sait absolument pas faire. Et puis qu'on a Brandao en pointe de l'attaque. Alors là, c'est vraiment le moment pour donner sa chance à Morientes, parce que si tu veux, je préfère donner sa chance à un mec qui a été et qui peut peut-être redevenir qu'un mec qui n'a jamais été. Finalement, il risque de jamais être un attaquant de haut niveau. Donc.
Ou de bon niveau.
Moi, et puis, je suis plutôt impatient de voir Mbia débuter les matchs.
Et Lucho, surtout. Et Lucho, là.
Et Lucho, ouais. Parce que c'est bien joli de dire tout le temps que Bordeaux est meilleur que Marseille. Oui, mais Bordeaux joue avec l'équipe type, pas Marseille. Donc. Moi, j'attends de voir ce que ça va faire avec... finalement, c'est peut-être même les deux joueurs les plus importants au milieu de terrain en Ligue des Champions.
Sinon, aussi sur le papier, Marseille ça passe derrière les Real Milan normalement. Moi que bon, j'attends quand même de voir le derby de demain, mais pour Milan j'ai pas mal de craintes cette saison. Même si évidemment ça reste la Ligue des Champions, ça reste l'une des grandes spécialités du Milan, mais j'ai peur qu'il y ait un truc qui parte littéralement couille. Et que ça marche pas finalement. Bon, j'ai pas envie de revenir sur tout le mercato de toute façon. Il est quasiment néant, mais franchement, ça marche. Il y a rien qui convainc pour l'instant côté Milan depuis le début de la préparation et c'est pas encore vraiment pour s'arranger. Heureusement qu'il y a un pato devant. Non, il n'y a pas que Huntelaar. Il y a aussi Zigoni et Beretta, attends, et Flavio Roma aussi dans le mercato du Milan. Non.
Je pensais qu'on était une émission sérieuse, hein, parce que sinon quand on parle du recrutement de Marseille, on va dire on a surtout pris Charlie Fomel. Non, mais Tu comprends ce que je veux dire? Là, je te parle des joueurs qui vont jouer à la Ligue des Champions, qui vont jouer un rôle.
Ah, moi, je te dis, en Ligue des Champions, je me Pippo Inzaghi, mais avant tout.
Bah, Pippo Inzaghi, même à 38 ans, il est capable de nous violer, ça, y a pas de problème.
Ah, t'as sûr, hein.
Et puis, moi, c'est surtout, j'ai peur. C'est pas l'effectif du Milan qui me fait peur. C'est plutôt l'histoire du Milan en Ligue des Champions.
Ah, bah ouais, c'est ça. Hein. C'est parce que si ça se trouve, le Milan encore en Serie A, ils vont finir 6e et puis gagner, et puis aller en finale de la Ligue des Champions. Ce serait même pas une surprise hein, de voir. Hein.
Parce que Pirlo, tu vois, des joueurs comme Pirlo par exemple, il est parfaitement capable, entre une sieste contre Palerme et une autre contre Sienne, de se dire bon. Il y a les Francaoui qui arrivent, on va leur mettre une branlée. Ça ne surprend pas. Ronaldinho qu'on voit, qui a bien débuté une saison pour la première fois depuis très longtemps.
Avant de dire bien débuté, on verra quand même demain.
Parce que, non, mais ce que
ça reste Sienne. Hein.
Évidemment que ça reste Sienne, mais là, quand je te dis bien débuté, je parle surtout de physiquement. Alors, il n'est pas encore à 100%. Mais il est déjà beaucoup plus proche de ça. Je pense que il a rarement été aussi mince à Milan. Donc.
Ah, c'est sûr.
C'est pas du tout une bonne nouvelle pour nous. Et puis bon.
En même temps, il est monté.
Franchement,
il est monté.
Il va falloir qu'on utilise à tous entre nous tous nos trucs religieux. Alors les cierges, tu pars le Coran de la Mecque, tout ça pour voir si on a une chance de passer. Mais j'y crois pas trop.
Bah merci.
Ça va pas être facile. Mais il y a surtout. Le grand club de groupe qui reste le FC Zurich qui va montrer tout son talent du Eric Casley qui est un peu qu'on peut comparer à un serial bomber le Johan von Lanten qui est un Messi un peu en mieux sur le côté droit qui va à 100 à l'heure. Non, mais non, franchement, sincèrement, Johan von Lanten, il fait un début de saison exceptionnel. Hein. Il est vraiment. Je crois que j'ai jamais vu aussi bon que ça. Même quand il met son but à 17 piges à l'Euro 2004. Mais sinon, il y a une équipe qui est correcte de la part de Zurich. Ça veut pas dire que ça va gagner un match dans cette Ligue des Champions, mais. Oui, Marguera. Oui, j'avais oublié Marguera. Qui a fait un fameux passage du côté de Sassuna. Et non, mais il y a des bons joueurs, mais il y a surtout...
Un triomphe romain, hein, au cas où tu en
dis. Ah bah, un triomphe...
Ah bah, là, ils l'ont gardé, ils sont heureux, et ils ont retiré son numéro de maillot, quoi. Maintenant, c'est une légende.
Ah bah, il a surtout une jambe en compote pendant 2 ans. Ça. Mais de toute façon, il y a des bons joueurs devant, mais derrière, c'est... Tu vas me dire... Allez, dis-moi quelqu'un de mauvais du côté de Real. Drenthe, il est un peu...
Merci. Bah, mauvais.
Mauvais en attaque.
Ah, des mauvais, il n'y en a plus. Ils ont viré AMC, hein, donc c'est fini.
Non, mais en attaque. Qui pourrait être mauvais
que les autres? Comment ça, moins bon? Le moins bon, c'est Raoul, en théorie.
Voilà, bon, Raoul, alors je pense que Raoul, il va prendre de vitesse la défense de Zurich sans trop de peine.
Non mais moi j'ai plutôt l'impression que si tu veux ils vont débarquer avec l'équipe des remplaçants, mais bon l'attaque remplaçante du Real ça va donner un truc, s'ils vont Nistelrooy en pointe, Higuain à droite.
Ouais.
Même ça te viole Zurich. Hein. À part des joueurs que je connais un petit peu de nom, style Alain Rochat qui était à Rennes.
Qui est à Rennes, qui a marqué aussi Rennes, lui aussi. Qui
vont... Pareil, de toute façon, c'est vraiment le haut concours aussi que je connais un petit peu. Sinon, voilà, quoi, c'est génial. Quoi.
Les grands joueurs finissent à Zurich.
Non, mais je pense que Zurich, c'est la meilleure équipe suisse, la meilleure équipe qui a connu la Suisse depuis le BAL 2002-2003.
C'est Thun.
Non, on va pas jouer avec le FC Thun, avec Ulus Trigol, Pape Omar Faye. Et puis il y a le Jakubovic au but, c'est bon, ça marche 2 minutes. Non, mais le bal 2002-2003 quand ils avaient Yakin, Jiménez et Rossi qui ont fait une fureur en championnat de France, mais c'était une bonne équipe, très bonne équipe à l'époque qui avait fini troisième en deuxième phase de Ligue des Champions dans un groupe super relevé.
Avec la Juve notamment.
Bah Manchester, la Juve et puis le Deport.
Et puis ils étaient comme des fous parce qu'ils avaient gagné le dernier match contre la Juve alors que la Juve pour se réaligner devait perdre 6-0. Quoi.
Voilà, Mais ils étaient passés en première phase. Hein. Ils avaient Liverpool, Valence et le Spartak.
On sait ce que c'est Liverpool hein, quand ils décident de faire les têtes de con.
Ah, ils avaient fait 3 points en plus. Bon, ils en étaient pris 6, hein. 6 du côté de Valence. Mais...
Ah bah ouais.
Mais c'est... Mais non, mais il y a une équipe qui est correcte pour le championnat suisse. Ça joue au foot. Après, ça va pas être dur d'accrocher des points, je pense. Je sais pas s'ils vont jouer à Bâle ou à Zurich. Il me semble que Zurich, ils veulent pas trop y jouer, mais normalement, ça va assez dérouler contre Zurich.
T'arrêtes de nous parler de Zurich maintenant, merde. T'es chier, putain.
Vas-y, parle de Zurich.
10 minutes, tu parles de Zurich, nom de Dieu.
Bah, il fallait en parler, hein.
On a fait une demi-heure sans Zurich, là je crois que tout le monde s'est endormi. Et donc il y a Mathieu.
Ah, vous endormez.
Salut Mathieu.
Salut. oui,
question de Sam Bonetti.
Vas-y, je t'écoute, Roméo, oui.
Qu'en penses-tu? Bah,
c'est Zurich.
Non, pas du FC Zurich, mais du groupe de l'Olympique.
Par rapport au tirage au sort?
Oui, voilà, par rapport au tirage au groupe. Et la menace von Lanten.
J'ai pas entendu ce que tu m'as dit, désolé.
Non, je parlais de la menace von Lanten, mais c'était une blague, en fait.
Ouais.
Il a des problèmes de prononciation, surtout.
Ah ouais, moi, von Lanten, impossible de le dire, hein, désolé, mais pour moi, c'est compliqué.
Voilà, vas-y, lâche-la. Oui. Allô?
Ayoko.
Non, je t'attends pas. Non mais en fait, bon, j'arrive même pas après la bataille, à mon avis la Bible il a dû tout disséquer des champs. Bon. Bah, que dire, à part que c'est un tirage assez compliqué pour nous, bah, ça, tout le monde le sait. Voilà, Real Madrid, Milan AC, même si bon le Real c'était bien sur l'épouvantail avec le recrutement de malades qu'ils ont fait. Même si, bon, on sait pas comment ça va tourner, mais bon, logiquement l'addition des talents, ça va forcément faire du mal. Fait du mal pour Marseille et du bien pour Madrid, bien sûr. Ensuite, le Milan AC, bon, même si ça, c'est pas le grand Milan, bon, c'est un peu un cliché parce que tout le monde a répété ça depuis hier, mais ça reste quand même en Coupe d'Europe, bon, c'est leur spécialité, quoi. Donc, moi, je pense que ce sera compliqué pour nous. La troisième place, à mon avis, c'est ce qu'il faut viser. Parce que, voilà, ça va être vraiment chaud. Après, Zurich, je connais pas du tout, donc je sais pas.
Déjà, on parle encore. Tu veux que j'en parle encore?
Non, c'est bon.
J'écouterai le podcast, y a pas de problème. Non, mais même si je les connais pas, il faut pas dire directement, on leur prendra 6 points, on fera ceci, on fera cela. Bah, chaque année, l'équipe qui est censée être la plus faible, on dit ça, et au final, ben, les 6 points, on les prend jamais. Donc, il faudrait être sérieux, concentré. Voilà, j'espère que l'OM va enfin montrer quelque chose au niveau européen. Parce que franchement, les supporters français, marseillais en particulier, dès que c'est la Ligue des Champions, il y a aucun plaisir. Puisqu'on croise les doigts et on prie pour pas s'en prendre 6 et pour qu'on passe pas pour des sous-merdes, quoi. Donc, j'espère que, voilà, avec Deschamps, l'état d'esprit sera là. On a fait tout ce qu'il fallait au niveau de la défense, de l'impact physique, amener plus de taille. Donc, j'espère que tout sera mis en place pour qu'en Europe, on essaye de briller un petit peu. Enfin, briller un petit peu, atteindre les 8e sera compliqué. Mais bon, Milan, peut-être qu'il y aura un moyen d'accrocher une victoire contre des confrontations entre Milan et Real, essayer de gratter un match nul ou deux, bon, contre Zurich, essayer de prendre le maximum de points, et bon, on verra, mais ça va être dur, ouais, je sais pas, mais ça va être compliqué pour Marseille, mais je pense que tout sera fait pour pas être ridicule, moi, c'est surtout ça, quoi. Donc après, excuse-moi, mais s'il y a moyen d'être après reversé en Europa League, c'est pas une mauvaise chose non plus, même si bon, ça fait une petite bite de dire ça, parce que logiquement, si t'es en CM, même dans une poule compliquée, faut tout faire pour se qualifier. Mais bon, voilà, quoi, c'est un peu, je suis un peu désabusé, quoi, voilà, oui, par rapport à ces
rages. Ça se comprend. Et d'ailleurs, oui, donc on parlait donc du dernier, du a priori plus faible, et l'année dernière, donc Marseille contre PSV n'avait pas pris les 3 points, avait perdu à Eindhoven, et il y a deux ans...
Un match mémorable.
Oui, la défaite 2-0, pardon. Il y a deux ans, à Beşiktaş, donc Marseille avait perdu à Istanbul contre Beşiktaş. Donc voilà. Donc c'est pas toujours facile de prendre les 6 points contre l'équipe supposée plus faible du groupe. Et au niveau du calendrier, bon, Marseille, je pense que vous le savez tous, les deux premiers matchs c'est contre le Milan et le Real. Le premier à domicile contre le Milan, le deuxième à Madrid. Ouais. Et voilà. Et le dernier match, donc Marseille recevra Madrid. Ah bah ça peut être intéressant. On sait jamais si c'est une petite éventualité. On se rassure comme on peut. Si jamais le Real est qualifié, que voilà. Bref.
Et donc, si jamais Zurich est qualifié aussi.
Oui, bah oui. Soyons fous. Voilà. Que on a bien parlé de Zurich d'ailleurs.
Bah, vous en entendrez parler. Hein.
Je pense qu'il vous a un peu saoulé le Suisse là, mais bon. Voilà. Voilà donc. Donc bah voilà pour Marseille, on a bien parlé de Marseille. On fait ça. Vous voulez parler des autres groupes en détail ou on fait ça en vitesse comme vous voulez. C'est vous qui choisissez.
Tu peux pas parler du groupe le plus relevé de la Ligue des Champions. Chelsea, Porto, Atlético Madrid.
Bah vas-y, on y vient.
Ça c'est du groupe qui fait peur. Ça c'est.
Vas-y, lâche-toi.
C'est un enfer ce groupe. C'est vraiment un enfer.
Et
il y en a un qui est capable de me dire qu'il va se qualifier, franchement.
Ça, moi, je suis capable de te dire quelle est la quatrième équipe du groupe. C'est l'Apoel Nicosie.
Voilà. Alors là, je te raconte pas. Hein. Ils vont repartir avec le cul en tartare façon Vincent McDoom. Hein. Ah, ils vont s'éclater. Vraiment. Mais bien. Mais bien. Non, non, mais ça va être super compliqué parce que... Bon, ben Chelsea, ça reste Chelsea, hein. Mine de rien, on dit qu'ils sont pas renforcés, ils sont pas renforcés, ils ont pris Zirkov.
Ils ont pris Ancelotti, surtout.
Ils ont pris Ancelotti. Ils ont perdu aucune de leurs stars, plutôt. L'Atlético Madrid s'est renforcé, et surtout, bah, surtout en défense. Porto, alors Porto, on peut avoir des petits doutes, parce que c'est une sorte de fin de cycle. Mais ils ont quand même recruté de bons petits joueurs sud-am.
Comme d'hab, on va pas comprendre. Il y en a 2-3 qui vont exploser, et puis on va dire Porto c'est les meilleurs recrutements. C'est habituel.
En même temps, je sais pas si Sonigo nous écoute. Est-ce que toi, ça te surprendrait si Fernando Bellucci explose à Porto?
Non, ça me surprendrait pas parce que le talent est là. Maintenant, faudrait qu'il trouve une régularité, et qu'il trouve vraiment un poste fixe sur le terrain. Parce que là, il n'a pas l'air d'être à son aise en ce moment.
Bon, il est fait jouer au milieu de terrain.
Ouais, c'est dans une position plus avancée. Il serait mieux, mais. Mais on faudrait voir. Il y a aussi Valérie qui est sur le banc et qui attend son heure. Peut-être qu'il apportera cette.
Le merci. Comment ?
J'ai dit qu'il venait de l'Anus, pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Donc bah peut-être qu'il apportera cette régularité que Bellucci n'a pas pour le moment.
Et puis bon, Porto, on n'en parle pas trop parce que les recrues, bon, je me doute qu'elles sont pas trop connues en France.
Oh non.
Mais pour en avoir parlé un petit peu, tais-toi. Pour en avoir parlé beaucoup avec Pierrot, ben Beto, le gardien de l'Échoux. Alors je sais pas comment on dit l'Échoux, l'Échouange.
L'Échouange.
On va dire le joint. Le joint avec le mot, avec la vague. Rio, Miguel Lopez de Rio Ave, qui m'avait beaucoup parlé de lui, m'avait dit que c'est un super joueur. Alvaro Pereira, lui, pour le coup, je le connais beaucoup mieux. C'est le latéral, milieu de terrain qui joue au Cheferi Cluj, international uruguayen. Très, très bon petit joueur. Après, ils ont pris beaucoup d'Argentins, ou beaucoup de joueurs du championnat d'Argentine, donc Falcao de River, Fernando Bellucci, bon, il vient de l'Olympiakos, mais c'est pareil, il a beaucoup joué en Argentine, c'est un pote de Sony, River Plate aussi, Diego Valeri de Lanús, qui est pas trop mauvais, même si je suis pas sûr, tu vois, qu'il était déjà prêt à aller tenter sa chance en Europe. Et puis, Sébastien Prediger, là, pour le coup, je le connais absolument pas, même si tout le monde me dit que c'est un super joueur. Bon, pour le coup, je sais pas si toi tu le connais mieux que ça, mais.
Non, je ne connais pas trop, en fait.
Bon, je sais qu'ils l'ont pris 3 millions et quelques. Ils jouent à Cologne, mais franchement, je peux pas t'en parler plus. Donc voilà, c'est a priori un recrutement anonyme. Enfin, anonyme.
Anonyme. Comme d'habitude, un peu avec Porto, quand même.
Dans une certaine mode. En fait, je dis anodinement parce que des mecs comme Falcao, Bellucci, c'est des valeurs sûres. C'est des mecs qui ont prouvé qu'ils avaient un certain niveau en championnat d'Argentine. Alvaro Pereira, c'est pareil en équipe nationale. Beto, Miguel Lopez, c'est des très bons joueurs du championnat portugais. Donc, ça a l'air d'être un bon. ça a l'air d'être un bon recrutement, mais il faut voir ce que ça va donner. Puis le seul petit truc en leur défaveur, c'est de se dire que peut-être que c'est une fin de cycle. Donc bon, faut voir ce que ça va donner, mais c'est, franchement, c'est vraiment un groupe très très compliqué.
D'accord. Ben voilà pour ce groupe. Voilà, à voir. Il a peu parlé du groupe qui va faire plaisir à Habib. Donc le groupe, le fameux groupe F. Donc je ne sais pas si vous savez qui est dans ce groupe F. Je vais vous le rappeler. L'Inter de Milan, le FC Barcelone, le Rubin Kazan et le Dynamo de Kiev. Voilà. Et dès le premier match, ça envoie du lourd.
Barça qualifié, merci, au revoir.
Voilà, oui, je pense aussi.
Next, suivant. Non, c'est intéressant parce que c'est, il y a plein de retours. Il y a plein de retours cette saison, mais Eto'o Camp Nou, c'est pas mal du tout. J'attends de voir ça avec impatience.
D'accord. Merci. Et puis, donc on peut passer à un autre groupe.
Et puis Ibra aussi du côté de.
On s'en fout, Ibra, c'est un con. Ouais.
C'est bon, tout ce que t'as à dire, Marvolo.
Il n'y a pas grand chose à dire. Est-ce que tu veux qu'on parle vraiment des chances du Rubin Kazan? Ils vont se faire prendre le plus toujours la plume. C'est pas où il y a Charles sur le carnaval de Rio et Vincent McDoom. Pareil.
Kazan, c'est pas où il y a Dimitri Tchitchev. Il y a Tchitchev, non, à Rubin Kazan, disons.
Ça montre la déchéance de ce club. Non, mais voilà, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce groupe-là?
Non. Non. À part que les deux, donc l'Inter et Barcelone, ils vont se geler en Europe de l'Est. D'ailleurs, il y aura beaucoup de matchs joués, enfin décalés, enfin avancés plutôt, en raison du climat. Donc il y aura beaucoup de matchs dans les alentours de 18h cet automne. Voilà, c'est pour info. Et donc,
voilà. Là, franchement, heureusement.
Hein. Voilà, je pense que vous dormirez moins bête ce soir. Et premier match.
On serait perdu sans toi, hein, Roméo.
Merci. Premier match Inter-Barcelone à San Siro dès le 16 septembre. Donc voilà, ça va envoyer du lourd directement. Et on peut parler du groupe. On va parler du groupe de Stuttgart, bien sûr. Le groupe le plus relevé de ce tirage qui contient le fameux Stuttgart, le FC Séville, les Glasgow Rangers et l'Unirea Urdiceni. Ça vous dit rien, les gars?
Bon, je vais là aussi je vais me permettre de commencer. Pour moi c'est un peu le groupe de la diarrhée, c'est ce qui reste, quoi. Séville, après je vais laisser Marvolo en toucher un mot.
Ça marche très bien, diarrhée, pour parler de Séville.
D'accord, je m'en doutais de toute manière. Et bon, les Rangers, a priori pas terrible. Unirea, je vous avoue, je regarde pas tous les matchs. Et donc Stuttgart,
la grande question. Pas du tout les matchs, hein, je pense.
Et Stuttgart, donc la grande question, c'est bien sûr comment vont-ils remplacer Mario Gomez, qui est parti, ce que je trouve un petit peu con. Il est parti juste au moment de jouer la Ligue des Champions avec Stuttgart. Il est parti au Bayern, je le rappelle, et donc Stuttgart qui a acquéri, si on peut dire comme ça, Pavel Pogrebniak, c'est dur à dire. Et donc de l'ancien vainqueur de la Coupe UEFA à l'époque, du Zénith Saint-Pétersbourg. Et donc je pense que Stuttgart a carrément sa chance, et je pense qu'ils se qualifieront peut-être même en première place, puisque Pogrebniak a l'air de pas mal s'intégrer, et c'est un peu le même style de joueur que Mario Gomez. Et derrière il y a des joueurs qui viennent comme le jeune brésilien qui s'appelle Elson, qui a marqué des buts phénoménaux. Quelqu'un approuve. C'est toi qui approuve,
Robert. Oui, j'ai approuvé.
D'accord, c'est toi qui approuve. Ça me stresse quand tu approuves. Non, donc ce qu'on peut dire, c'est que Stuttgart a sa chance, et je pense qu'ils s'imposeront, pas qu'ils s'imposeront, mais qu'ils se qualifieront assez facilement pour la suite. Simplement. Bah, je sais pas si toi tu peux dire quelque chose sur ce coup.
Monte Carlo, alors Jorge Lorenzo vient de passer.
Ouais, le truc c'est que je les vois absolument pas finir premier du groupe Stuttgart. Sevilla, c'est un vrai habitué à la Ligue des Champions, surtout aux Coupes d'Europe. Ils savent vraiment gérer ça, et puis même au niveau de l'effectif, je vois pas en quoi celui de Stuttgart est meilleur. L'attaque de Sevilla c'est assez phénoménal, quoi. Ils se retrouvent avec, avec trois attaquants énormes ici, que sont, enfin, trois attaquants, on va dire, deux attaquants énormes ici. Et un joueur sur côté, mais apparemment que tout le monde kiffe, qui s'appelle Fabiano, et puis les deux autres, bah, évidemment, c'est Panité et Negredo. C'est franchement pas mal du tout. Ça va être un groupe assez pourri, je pense aussi. Les Rangers, moi, le championnat d'Écosse, ça va, quoi. Hein. Les bourrins sans talent, au bout d'un moment, c'est chiant. Et puis Urinea, eh ben, elle va faire comme le batté Borisov, elle va se prendre ses six branlées, et puis elle va rentrer à la maison. Au moins, ils auront des souvenirs, ils pourront parler de choses. Non, mais voilà, quoi. C'est le genre de groupe qui me fait penser que la putain de réforme de l'autre abruti de Platini, ben, ça va nous faire chier plus qu'autre chose. Parce qu'il faut qu'on commence à s'habituer dès maintenant à voir ces petites équipes de merde. Parce que c'est ça son marché, en gros, avec les petites fédérations. Comme ils sont tous derrière lui, il est obligé un petit peu de leur rendre l'appareil. Alors c'est peut-être bien au niveau de... Moi je trouve que c'est bien d'un côté, parce que c'est bien de voir de nouveaux clubs. Mais bon, quoi, quand on voit... Moi je vois un peu le... Quand je vois du Maccabi Haifa, Zurich, Hapoel Nicosie, Debrecen, Rubin Kazan, Unira Ochezeni, ça va juste nous faire chier, quoi. Franchement, je trouve que ça prend la place de meilleures équipes, et puis son aberration là des champions qui se jouent ensemble et les non champions qui jouent ensemble, histoire de neutraliser les clubs anglais avec les clubs, de neutraliser les clubs portugais en utilisant les clubs anglais et ainsi de suite, je trouve ça pas terrible, quoi.
Non, mais ça reste quand même une Coupe d'Europe, donc forcément donner la chance aux plus petits, hein. Je sais pas, pour moi, voir quatre clubs espagnols et puis aucun club d'un pays qui pourrait peut-être faire deux trois trucs, ça me dégoûte aussi un peu. Je sais pas, on a régulièrement le tiers des équipes qui sont anglaises, espagnoles et italiennes, donc c'est au bout d'un moment tu commences à en avoir assez. Et puis quand tu vois en demi-finale les trois anglais, même si c'est pas pour s'arranger vraiment, t'as forcément envie de voir un peu du changement. Et puis redonner ce nom de Coupe d'Europe et puis le nom de Coupe anglo, hispano, italo, franco, franco-portugaise pour faire court.
Mais enfin, le truc, c'est que moi je peux te donner rapidement, par exemple, deuxième tour de qualif de Ligue des Champions. Alors d'un côté, tu te retrouves avec Sporting Portugal, Twente, Celtic Dynamo de Moscou, qui sont quand même des matchs assez intéressant, hein. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que tu trouves? Zurich Maribor, Bate Borisov, Ventspils. Levadia Tallinn contre Debrecen. Debrecen, ils jouent la Ligue des Champions parce qu'ils ont battu Levadia Tallinn. Je sais pas pour toi, moi ça me donne envie de chier.
Après, c'est peut-être pas forcément bien les...
Et puis là, c'est pareil. Non, mais je te dis ça, mais pareil, regarde les équipes que, entre guillemets, on a perdu dans ce troisième tour. On a perdu le Celtic, on a perdu le Sporting...
Le Shakhtar.
Bon, le Shakhtar, on peut rien leur reprocher. Ils ont perdu contre Timisoara. S'ils sont pas assez bons pour battre Timisoara, oui, franchement, ils méritent pas de la jouer. Mais là, je te parle plutôt du... C'est bien, le coup de téléphone tout de suite, là. Non, mais je voulais dire, ça va être des traits déconcentrés. Non, mais voilà, on se retrouve avec, quand je te dis, Fiorentina Sporting, et dans l'OTAN, la Ventspils Zurich, quoi.
Ah, mais c'est peut-être pas... C'est vrai qu'il y a certains pays qui sont un peu désavantagés, peut-être que la répartition des places européennes n'est pas forcément bien adaptée, mais moi, je suis quand même heureux, en tant que Suisse, hein, évidemment, de pouvoir voir des équipes comme Zurich en Ligue des Champions, ce qui va permettre un peu au club des pays essentiellement de l'Est de se développer avec tout l'argent qui est promis aux qualifiés en Ligue des Champions, et puis que ça redevienne un peu une Coupe d'Europe à l'instar des années 70, 80, 60 même, où on pourra retrouver vraiment un truc un peu plus... peut-être pas forcément homogène, mais avec un peu plus disons d'équipes qui peuvent avoir leur chance à jouer et qui veulent surtout se montrer. Et puis après ça permet surtout de voir des joueurs intéressants. On a il y a pas mal d'équipes qui le Standard de Liège, par exemple, ça va faire du bien de les voir aussi.
D'ailleurs, on va y venir.
Mais franchement, moi, je suis content de pouvoir voir enfin des petites équipes, même si ça change pas forcément ce qui va venir. Mais je me rappelle quand même que la Ligue des Champions, à la base, c'est une coupe d'Europe des clubs champions, et on va pas. Ça a été changé il y a 17 ans. 17 ans, et puis ça s'est pas forcément amélioré. On a eu un peu trop de mêmes vainqueurs. Bon, il y a la Reb Hoffman qui a pas arrangé le truc, évidemment, mais voir moi le truc des tableaux des non-champions, moi franchement je trouve ça ça allait assez logique. Quand le deuxième championnat portugais bat pas le quatrième championnat italien, il y a peut-être une certaine logique. Même si je le rappelle, ce match n'a pas forcément bien forcément tourné à la logique justement. Mais moi, je suis quand même content de pouvoir voir enfin un peu d'exotisme là-dedans.
D'accord, merci. Mais c'est pas tout les gars, mais à parler du groupe G, on en oublie presque le groupe de la mort, le groupe H, avec Arsenal, le Standard de Liège, l'Olympiakos et la Z Alkmaar. Ça fait brander, n'est-ce pas?
Non. Arsenal, moi, faudrait
encore une fois
le magot qui dépense chaque année pour ça. Hein.
C'est impressionnant, oui.
Moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est de voir Alkmaar avec McLaren aux commandes, un peu ce que ça peut donner en Ligue des Champions. Il y a quelques années, on se rappelle qu'ils étaient allés en demi de la Coupe de l'UEFA. Est-ce qu'en Ligue des Champions, ça peut être intéressant? Moi, j'ai envie de voir ça, et puis aussi voir le Standard de Liège. Même si, à mon avis, quand on voit le niveau d'Anderlecht et qui a fait les champions aussi contre Lyon, ça donne pas forcément des espoirs pour le Standard. Mais moi, une équipe comme le Standard qui avait, on va se rappeler, l'année passée. Pourquoi eux ne sont pas qualifiés? Ils doivent passer au troisième tour préliminaire contre Liverpool pour espérer une place qualificative alors qu'ils sont champions. Moi, je suis content aussi de voir l'équipe du championnat de Belgique qui doit être quoi, 10-12e, je pense, au classement de coefficient UEFA. Mais voir une équipe comme une équipe belge qui a fait la Coupe d'Europe ces dernières années, qui a fait l'histoire de la Coupe d'Europe, ça c'est toujours bien pour moi de pouvoir les voir. Et Standard Liège avec, bon, je sais pas, justement ça m'a intéressé parce que les Witzel, De Four, Jovanovic, ceux dont tous les Marseillais etc sont soi-disant dessus, qu'est-ce que ça donne vraiment? Et moi j'ai envie de les voir un peu, mais bon, c'est, on va dire évidemment Arsenal, Olympiakos normalement qualifiés. Bah non, c'est pas forcément le groupe le plus intéressant, c'est clair.
Waouh, ok.
Moi j'aimerais juste dire concernant ce groupe que a priori pas de soucis pour Arsenal, hein, mais moi je dis pas de soucis pour Arsenal, moi.
Ah, de Dieu, tu te mouilles un peu là ce soir.
Oh oui, je me mouille souvent, tu sais. Donc je voulais juste dire que je suis content de voir Liège en Ligue des Champions. Ça fait un bon petit moment qu'on les a pas vus, et si je ne me trompe pas, se trompe jamais d'ailleurs. Et je suis content de voir Liège parce que je les avais vus en Coupe UEFA quelques fois. Je continue à suivre cette équipe depuis que j'ai déménagé de là-bas, donc. Je suis content de les voir en Ligue des Champions, et je suis content aussi pour les gens de là-bas parce que ça leur fera beaucoup de bien, je pense. Et faut savoir qu'à Liège, c'est quand même la plus grosse ambiance de Belgique. Et j'étais allé une fois au stade et c'est très impressionnant. Même un stade belge. Donc je suis content pour les gens de là-bas et j'espère qu'ils feront quelque chose en Ligue des Champions si possible et qu'ils s'éclateront le plus.
Ouais. Donc disons que ça vous inspire ce groupe, hein, je vois ça. Donc a priori vous voyez Arsenal passer, non?
Non, moi je les vois le quatrième, évidemment, hein, toi.
En même temps, on est en train de parler d'un groupe d'Arsenal. T'as déjà vu un groupe d'Arsenal intéressant, toi?
Non.
C'est toujours chiant, Arsenal. Ils ont toujours des groupes de merde. Apparemment, Sevilla est bien parti pour... je pense qu'ils ont compris la méthode. Mais bon, voilà, quoi, c'est Arsenal. Hein.
De toute façon, ça va faire éliminer en quart, comme d'hab. Voir avec un peu de chance en demi, et puis voilà, c'est. Arsenal, faut pas croire parce qu'ils font c'est la meilleure équipe de leur groupe en Ligue des Champions qu'ils ont forcément une équipe géniale cette année. Hein. Je vois pas de grand changement par rapport à l'année passée. C'est le départ d'un débailleur qui peut ne faire que du bien, à mon avis. Ouais.
D'accord. Excuse-moi, j'avais mon micro coupé, donc voilà. Ah bah vas-y.
J'ai envie de faire participer un peu Sonny Gall et parler de son groupe de coupe de l'UEFA. Villarreal, Lazio. Et y a qui encore? Leski Sofia. Et le dernier, Red Bull Salzbourg.
Bah, c'est un groupe normal, quoi. Y a...
Ça va pas se dire.
Gros,
vous avez gagné l'Europa League cette année.
Oh, le dernier. Avec un grand repère.
Ça, ça veut dire.
Il y aura plus.
Ah, mais bon, franchement, Leski Sofia, je pense pas que c'est vraiment beau. Red Bull Salzbourg, ça, c'est nul. Maintenant, Lazio, ça peut être intéressant, mais bon, Villarreal, ça reste une très bonne équipe, évidemment.
Bah, c'est peut-être plus stable que la Lazio. La Lazio, c'est assez imprévisible.
Ouais, vous savez, ça commence à redevenir un peu intéressant. Mais...
Ils peuvent sortir un gros match comme ils peuvent se planter défensivement. Bon, on verra, quoi. Mais ça sera très intéressant.
Vas-y, place-le, Guizzi, place-le.
À l'origine, je voulais parler un tout petit peu de la Bundesliga. Je sais pas si Marvolo va nous laisser deux minutes pour en parler. Marvolo.
Mais on a fait quoi, nous? Pourquoi on est punis? Donc je t'en prie. Et puis voilà, jingle Bundesliga. Vas-y.
Merci, c'était agréable le jingle. Donc demain, quatrième journée de Bundesliga, je voulais en parler un petit peu puisque la Bundesliga a déjà repris depuis pas mal de temps maintenant. Donc quatrième journée avec aujourd'hui Gladbach qui s'est imposé contre Mayence. Et demain, a priori, il n'y a pas de grosses rencontres à part Bayern contre Wolfsburg qui sera très intéressant à suivre et peut-être Berlin contre Bremen. Donc on verra ce que ça va donner aussi, même si Berlin est une équipe de merde. Comme promis, je vous place ma petite fierté du moment, c'est Leverkusen qui est leader après les trois premières journées de championnat. Et une petite dédicace à notre petit Suisse, puisque Der Diok a marqué 4 buts en 3 matchs et Tranquillo Bernetta 3 buts en 3 matchs. Les deux Suisses donc qui explosent.
Suisse au pouvoir, Suisse Power.
Donc a priori ça marche bien sous Jupp Heynckes, l'entraîneur qui avait gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, qui est maintenant entraîneur du Bayer Leverkusen. Et derrière, pas de grosses surprises, Hambourg deuxième, Schalke troisième et Wolfsburg qui était quatrième avant la victoire de Mönchengladbach ce soir, mais qui a un match d'avance. Donc voilà, c'était ma toute petite page Bundesliga. Ah, et j'aime quand même préciser que le Bayern est 14e avec 2 points en 3 matchs.